identifiés à Christ, scellés par son Saint-Esprit, prêchés le 18 décembre 1959 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Merci beaucoup. Je suis si heureux d'être de retour dans le nom du Seigneur. Je suis simplement un peu enroué pour commencer, mais le Seigneur me permettra de faire mieux d'ici un moment. J'ai beaucoup parlé cette semaine dans les réunions et j'ai eu à répondre à beaucoup de questions. Et alors ils sont sortis bouillants de ces réunions. Je n'ai pas un mauvais coup de froid, je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Ainsi, je suis en pleine forme, mais ma gorge est simplement épuisée, et tout ira bien. Aussi, je veux tous vous remercier, chacun en particulier, pour tout ce que vous avez fait. En arrivant il y a quelques minutes, j'ai essayé de trouver la petite famille qui était venue, n'avait plus d'argent et ne pouvait pas rentrer chez elle. S'ils sont encore à l'intérieur, je souhaite qu'ils lèvent la main ou se fassent connaître. Je veux faire quelque chose moi-même, que la petite famille du Michigan ou d'ailleurs, en panne d'essence ou manquant d'argent ou de quelque chose, s'ils sont encore ici dans la ville, ou si vous les voyez après la réunion, qu'ils soient envoyés chez moi. Je veux faire quelque chose pour eux. C'est pourquoi nous sommes ici, pour tendre une main charitable à quiconque, quand nous le pouvons. Aussi maintenant, Seigneur Jésus, bénis-nous dans notre prière. Maintenant, cette semaine a été spéciale et nous avons vécu des faits extraordinaires. Je dois dire que je n'ai jamais vu une époque où le Saint-Esprit se soit manifesté plus librement qu'il ne l'a fait cette semaine dans ce tabernacle. J'ai trouvé cela extraordinairement merveilleux. Et le soir, quand je rentre chez moi, il est quelquefois 1 heure du matin avant que je puisse m'endormir, je me réjouis simplement à la pensée que le Seigneur Jésus puisse être aussi bon pour nous. Et maintenant, vous tous qui êtes ici dans cette ville ou dans le voisinage, et qui ne savez pas encore où aller dormir, vous êtes les bienvenus ici. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure et dormir ici. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de carte de membre achetée, simplement la fraternité est pour tous. Comme Howard Cable avait coutume de dire, « N'avons d'autre loi que l'amour, d'autres credos que le Christ, d'autres livres que la Bible. » Aussi serez-vous toujours les bienvenus à ce petit tabernacle, qu'avec la permission de Dieu, nous transformerons aussitôt que possible en une plus grande église où nous serons plus au large. Pas trop grand, car nous croyons que Jésus va bientôt venir et nous ne voulons pas quelque chose de trop compliqué. Celle-ci menace ruine. Elle est très utile et nous sommes très heureux et reconnaissants de la voir. Je n'oublierai jamais qu'à la place même où se trouve ce pupitre maintenant, il y a quelques 20 ans, j'étais à genoux dans un vieil étang entouré d'herbes folles et le Seigneur m'a dit « Construis ton église ici ». C'était une petite parcelle de terre et nous sommes allés voir les Ingram et nous l'avons acheté $160, mais nous devions le combler. C'était un étang où nous allions patiner quand il était gelé. Frère Jess Spencer et sa sœur devraient se souvenir de l'époque où il y avait un étang ici. Je pense que vous vous en souvenez. Ils venaient en voiture et faisaient le tour de l'étang pour ne pas tomber dedans. J'étais un petit écolier de l'école d'Ingramville et nous allions y patiner et jouer et shiny et toutes sortes d'autres jeux. Vous souvenez-vous, frère Mike, quand c'était en étang? Oui, monsieur. Et frère Roy, au fond là-bas. Et maintenant, là où se trouvait l'étang, nous en avons laissé une petite partie, elle est là derrière. C'est là que nous baptisons les gens dans l'eau pour la rémission de leurs péchés. Et maintenant ceci. Vous savez, quand vous venez avec des questions et que vous voulez exposer quelque chose, c'est un problème parce que l'assistance est mélangée. Les uns ont été enseignés d'une façon ou de l'autre, mais quand vous pouvez expliquer la chose, même si c'est contraire à ce qu'on leur a enseigné et que leur âme est envahie de douceur, cela est divin pour moi. Je ne veux point citer de nom, mais un certain docteur étranger à la ville m'a rencontré ici, un docteur en médecine, je crois. Et il m'a dit, pendant des années, il avait été si embrouillé dans tout cela, il avait lu un livre à ce sujet, contraire à ce que j'enseignais. Mais il me dit que depuis qu'il avait assisté aux réunions et vu les faits de l'écriture confirmés, cela l'avait convaincu pour toujours. Il y a quelque temps, j'ai rencontré ici quelques personnes de l'Illinois. Il y avait environ 4 pasteurs, 3 ou 4, et ils dirent, « Frère Branham, toute notre vie, nous avons enseigné le contraire de ce que vous dites. Mais maintenant, nous voyons que c'est vraiment la vérité. Nous nous demandions ce que c'était, voyez. C'est ce que nous sommes maintenant. Ne croyez pas que cela amoindrisse aucune église ou quiconque. Cela édifie simplement l'église, vous voyez. Et alors, nous devons tenir debout tous ensemble. Quand Dieu s'est divisé à la Pentecôte, il a brisé la colonne de feu en plusieurs petits morceaux de colonne de feu qui se posèrent au-dessus des personnes et le Saint-Esprit est descendu sur elles. Et si Dieu se divisait parmi nous, chaque fois que quelqu'un se joint à nous, cela augmenterait toujours le nombre de personnes autour de cette colonne. Et ensemble, quand la grande Église rachetée par Dieu sera rassemblée, nous nous élèverons très certainement jusqu'aux cieux. Je n'ai jamais essayé de désunir les frères ou de semer la discorde entre eux. J'ai fait de mon mieux pour être aussi compréhensif que possible pour l'autre. Si ces églises qui patronnent mes réunions sont différentes les unes des autres, cependant, elles m'aiment bien, elles soutiennent mes réunions. Et si je vais parmi leurs fidèles, je ne voudrais certainement pas dire quoi que ce soit. Un gentleman ne ferait pas une telle chose. À plus forte raison, un chrétien. Certainement pas. Et si un jour je fais des réunions sous une tente, comme j'ai l'intention de le faire avec l'aide de Dieu, alors avant que je n'enseigne quoi que ce soit, il y aura d'abord pendant plusieurs jours des services le matin avec les pasteurs et je leur communiquerai ce que j'ai l'intention d'enseigner. Et alors, si tel frère n'est pas complètement d'accord avec moi, qu'il réunisse ses fidèles et le leur dise. Maintenant, je ne veux pas que vous assistiez à ces réunions, nous nous tiendrons à l'écart pendant toute leur durée. Vous voyez, nous voulons être toujours en harmonie avec Dieu et avec ses enfants, avec tout le monde. Maintenant, Dieu voulant, j'ai à répondre à une question ce soir. Je croyais en avoir une autre ici, mais c'était un rêve. Je pensais que quelqu'un me l'avait posée et voulait que je prie sur cette question et que je lui donne la réponse. Ce que le Seigneur a été assez bon de faire pour nous tant de fois. Maintenant, nous voulons que vous sachiez bien, avant que le service ne commence, que vous êtes tous cordialement invités à chaque réunion que nous aurons. Vous tous de Louisville, qui habitez hors de la ville, dans la ville et autour de la ville, ces chers pasteurs, le frère de Sellersburg, les chanteurs, cette dame dont je ne connais pas le nom, qui a chanté ici il y a quelques instants, et le petit garçon, nous vous remercions beaucoup. Je m'entretenais avec quelques frères ici. Aussi n'ai-je même pas eu la chance de savoir qui ils étaient ni ce qu'ils ont chanté, mais je les ai très bien entendus. C'était beau, et j'ai beaucoup apprécié leur effort. J'ai oublié ceci hier soir. Mon fils l'a mis dans ma poche. Quelques chères personnes l'avaient écrit. Souvenez-vous cependant que ces questions ne doivent pas soulever des divergences. Il se peut parfois qu'une fois écrites, elles paraissent être opposées, mais cela vient d'un cœur droit à la recherche de la vérité. Vous voyez, c'est comme cela que nous devons comprendre les choses. Une personne honnête essayant de découvrir la vérité. Je faisais ici, il y a quelque temps, une réunion de prière dans une maison. Et le frère Junior Jackson, je l'ai entendu il y a un moment, ou du moins j'ai cru l'entendre, était avec moi et avait fini de parler. Et il y avait un pasteur d'une autre église. J'étais à peine arrivé sur l'estrade qu'il bondit et commença à me chercher chicane. Il y avait environ 5 autres pasteurs dans l'assistance, et ils étaient tous prêts à se précipiter immédiatement sur l'homme. Je dis, non, ne faites pas cela. Maintenant qu'il m'a provoqué, laissez-nous discuter ensemble. Alors il a commencé. Nous parlons quand la Bible parle, et nous nous taisons quand elle se tait, et ainsi de suite. Et pendant quelques instants, je notais simplement les passages de l'Écriture qu'il citait à tort et à travers. Il disait, il n'y a eu que 12 personnes qui aient reçu le Saint-Esprit, les apôtres, et la guérison divine n'a été donnée qu'à ces 12-là, et ainsi de suite. Comme vous le voyez, il était à 100 lieues de la vérité. Aussi, le laissais-je parler pendant 1/2 heure environ. Et je lui posais une question, et il me dit que j'étais un démon. Et alors, quand il eut fini de parler, je dis, maintenant, la première chose que je veux dire, frère, c'est que je vous pardonne ce que vous avez dit de moi. Parce que vous ne le pensiez pas, je le sais, Car si vous êtes un pasteur et moi aussi, nous devrions être frères, vous voyez. Et puis j'ai ajouté, or, que nous soyons en désaccord sur l'Écriture, ça, c'est tout à fait différent. Alors nous avons commencé à prendre l'Écriture. Et le pauvre malheureux fut complètement perdu en une minute. Il ne savait plus ni quoi ni dire, ni quoi faire. Alors il fut tellement coincé qu'il ne savait que faire. Pourtant, sortant de la salle, ce soir-là, il dit, je ne dirai qu'une chose, frère Branham. Vous avez l'Esprit de Christ. Vous voyez? Et alors je pensais, un démon, il y a quelques minutes, et maintenant l'Esprit de Christ. Cela tient seulement à la façon dont on envisage les choses. C'est tout. Maintenant, parce que cet homme a fait cela, des choses horribles lui sont arrivées. Il est presque devenu fou. Une institution, quelque chose de ce genre, il a sauté par la fenêtre et s'est presque tué. Maintenant, il est en convalescence chez l'un de mes bons amis. Chaque jour, il cherche le baptême du Saint-Esprit. Il veut venir chez moi pour que je lui impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Il est prédicateur d'une grande église, vous voyez. Nous répondons aux questions du fond de notre cœur et selon notre connaissance. Et maintenant, je vais lire cette question. Frère Branham, voudriez-vous, je vous prie, expliquer pourquoi les gens dans Actes 2-4 parlaient dans d'autres langues avant même que la foule soit rassemblée selon Actes 2-6? C'est la première question. C'est aussi la même personne, je suppose. Oui, c'est la même personne. Bien. Maintenant, remarquez, chers frères ou chères sœurs, qui avaient posé cette question, qu'il n'est pas dit si cela était venu en haut. L'assistance n'était pas en haut, mais quand les disciples sont venus dans les lieux où la foule était rassemblée, c'est à ce moment-là que les gens entendirent qu'ils parlaient diverses langues. Vous voyez? Alors vous pourriez dire, bon, ils ne parlaient pas là-haut. Et si c'est pour discuter ou disputer, vous auriez tout autant le droit de dire qu'ils n'ont parlé qu'en arrivant en bas, parce qu'il est dit quand le bruit s'en fut répandu, voyez. Maintenant, une autre question ici qui va avec la précédente. Voudriez-vous expliquer comment Simon sut que le Saint-Esprit fut donné, Actes 8-18, c'était à Samarie? Bien, il y a une chose, ils ne savaient pas qu'ils avaient le Saint-Esprit parce qu'ils parlaient diverses langues. Du moins, la Bible n'a pas dit qu'il les parlait. Il a simplement vu les résultats. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans que quelque chose ne lui arrive, c'est vrai. Mais il n'a pas dit que là, ils parlèrent en langue, de sorte qu'il doit avoir vu quelque chose d'autre que le parler en langue, puisque celui-ci n'est pas mentionné. Et expliquez-nous comment nous savons que le jour de la Pentecôte, certaines personnes parlaient galiléen. La plus grande partie d'entre eux étaient galiléens. Or, comme je l'ai dit ce matin, il y a deux choses, deux facultés. Je vais admettre que les gens qui sortaient de la chambre haute parlaient des langages différents et commencèrent à se mêler à la foule. Mais si vous lisez l'Écriture, écoutez attentivement maintenant. Tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous? Comment comprenons-nous tous ces hommes dans notre propre langue? Celle du pays où nous sommes nés. Tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Peut-être parlaient-ils galiléens, mais ils les comprenaient dans une autre langue. Peut-être parlaient-ils une autre langue, leur propre langue. Que ce soit l'une ou l'autre chose n'a aucune importance. Cela ne justifie pas la conception pentecôtiste. Écoutez, voici pourquoi. Ce n'est pas pour contredire, mais simplement pour établir les faits. Si vous remarquez, pourquoi Pierre s'est-il levé alors et parla-t-il à toute la foule? Et chacun le comprit dans sa propre langue, car 3000 juifs fidèles, aussi fidèles que l'on puisse être à sa religion, se convertirent. Ils ont dû comprendre chaque mot que Pierre disait sur les prophètes, et ainsi de suite, leur apportant la Pentecôte, car ils criaient, disaient, « Hommes, frères, que devons-nous faire pour être sauvés ?» Vous voyez, Pierre dit, « Repentez-vous et faites-vous baptiser chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. » Maintenant, laissez-moi vous dire simplement ceci de tout mon cœur, pour que vous voyez ce que j'essaye de vous faire saisir. Je crois profondément à la diversité des langues. Je crois que c'est un don fait à l'Église. Je crois qu'il y a des langues. Très souvent moi-même, j'ai parlé en différentes langues. Laissez-moi vous donner un petit exemple de ce que je pense qu'a été la Pentecôte. J'étais à Dallas, Houston, Texas. juste avant que cette photo ait été prise, environ un jour. Nous aurions pu avoir le Music Hall, nous étions 8000. Les gens n'ont pas pu entrer, alors nous sommes allés au tabernacle de Raymond Richet Stofferer. C'était un tabernacle mammouth immense, et nous l'avons complètement rempli. Et là, j'ai parlé et prié pour les malades. Je m'approchais au fur et à mesure qu'ils les faisaient avancer jusqu'à la rivière derrière le tabernacle de Raymond Richet tout en continuant à prier pour eux. Et alors, pendant que nous étions là, faisant des arrangements pour retourner au Music Hall, Howard, qui m'avait laissé parler aussi longtemps que je le pouvais, me tapa sur l'épaule et me tapota de côté. Si vous avez remarqué, pendant le service de guérison, il me tapote comme cela. Cela signifie qu'il est l'heure de partir, que je ne dois plus rien dire, que je dois m'en aller. Et d'habitude, je me tenais là, il me prenait par la main, puis me prenait sur les épaules et sortait parce qu'il savait que j'en avais assez. Bien. Je l'ai quitté l'estrade quand il me tapa sur l'épaule. Je dis, bien frère. Je commence à sortir de la plateforme. Lorsqu'une petite fille s'avança là en pleurant, une petite Mexicaine qui paraissait avoir de 12 à 14 ans, je la regardais et je dis, « Qu'y a-t-il, chérie ?» Et je dis, « Elle pleure, voir. » Voyez, dit-il, c'est assez, il y a un autre groupe là-bas qui attend. Et je dis, « Amenez-la ici. » Et je lui fis signe comme ça. Elle monta sur l'estrade. Je crois que Frère Wood et d'autres étaient présents. Oui, ils étaient à la réunion. Frère Wood, où êtes-vous ce soir? Est-ce exact? Oui, vous étiez là. Et j'avais dit, amenez-la sur l'estrade. Alors, chérie, dis-je, croyez-vous que Dieu puisse me dire quel est votre ennui? Elle baissait sa petite tête. Bien, pensais-je, elle est peut-être sourde ou muette. Alors, je la regardais de nouveau, et je dis que c'était une question de langage, et je dis, oh, elle ne parle pas l'anglais. Elle ne parlait pas un mot d'anglais. Elle venait de Mexico. Alors, on fit venir un interprète, et je dis, croyez-vous, ma petite chérie, que le Seigneur Jésus peut me dire quel est votre ennui? Elle répondit par l'intermédiaire de l'interprète et dit qu'elle le croyait. Et je dis, ne pouvez-vous absolument pas parler anglais? Et l'interprète lui dit, elle répondit non, qu'elle ne savait pas un mot d'anglais, qu'elle était de Mexico. Alors j'entrais dans une vision. Il n'interprète pas les visions parce qu'on parle tout le temps. N'interprétez jamais une vision jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée et qu'il ait été dit ce qui est arrivé. Alors, tandis que j'avais commencé à lui parler, j'ai eu une vision. Je dis, je vois une petite fille d'environ 6 ans. Elle porte une robe écossaise. Elle a des nattes de cheveux noirs dans le dos, attachées avec des rubans. Elle est assise à côté d'une vieille cheminée. Il y a une grande bouilloire dans laquelle elle mange du maïs. Elle mange tellement de maïs qu'elle en est gravement malade. Elle tombe et sa mère l'étend sous le lit. Elle a des crises d'épilepsie. Voilà ce qui lui est arrivé, voyez. Je dis, avez-vous eu des crises d'épilepsie depuis? Et rapidement, avant que quiconque dise quelque chose, elle regarda l'interprète et lui dit dans sa propre langue, je croyais qu'il ne savait pas parler l'espagnol. Et l'interprète me dit, avez-vous parlé espagnol? Je dis, non monsieur, j'ai parlé anglais. Il dit, eh bien, dis que vous aviez parlé espagnol. Oh, je compris. Je dis, arrêtez les enregistreurs. Il y avait beaucoup de magnétophones en action, peut-être une trentaine. À cette époque, frère Roy Robertson, n'étiez-vous pas là? Oui, frère Roy Robertson et sœur Robertson étaient là. Alors je dis, arrêtez les magnétophones et faites-les répéter. Et c'était bien réellement en anglais. Mais vous voyez, quand j'ai commencé, tant que la vision se déroulait, je parlais en anglais, mais elle l'entendait en espagnol. Comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue maternelle? Constatez, aussitôt que j'ai recommencé à parler moi-même, elle ne comprenait pas un mot de ce que je disais. Mais pendant l'inspiration... Maintenant, appliquez cela à la Pentecôte seulement une fois. Vous voyez, mes amis, Dieu est mon juge. Le Saint-Esprit a fait cela. Dès lors, appliquons cela à la Pentecôte pour notre explication. Le Saint-Esprit ne ferait pas quelque chose simplement pour qu'il soit dit qu'il l'a fait. Il doit y avoir une cause et une raison à cela, vous voyez. Revenons à ce jour-là. Comment comprenons-nous chaque homme dans notre propre langue, notre langue maternelle? Tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Comment savaient-ils qu'ils étaient galiléens, s'ils ne parlaient pas eux-mêmes le galiléen? Ils étaient habillés de la même façon. Comment savaient-ils qu'ils étaient galiléens? Tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment se fait-il que chacun d'entre nous les comprenions dans notre langue maternelle? Et alors, un autre homme se lève, un galiléen, Pierre, et il commence à leur parler. Et d'une façon ou d'une autre, dans cette foule de gens, 3000 âmes le comprirent et s'avancèrent, furent convertis et donnèrent leur vie à Christ. Maintenant écoutez, laissez-moi vous faire lire encore une écriture, s'il vous plaît. Allons vers le grand saint Paul. Et alors nous lirons le 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Puis nous prendrons le 13e chapitre dans lequel Paul écrit « Si les oreilles disaient au nez, je n'ai pas besoin de vous » et ainsi de suite tous les membres du corps. Écoutez encore ce qu'il est écrit dans le 13e chapitre. Or nous savons qu'il y a deux sortes de langues différentes mentionnées dans la Bible. L'une d'elles est une langue qui est un dialecte de la terre. L'autre est une langue inconnue. Maintenant, parmi les personnes qui me sont les plus chères, beaucoup sont pentecôtistes. Et je vous ai dit que je suis pentecôtiste. Bien de mes amis croient que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se lèvent et parlent une langue inconnue. C'est exactement contraire à l'Écriture. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Mais le jour de la Pentecôte, chacun d'entre eux savait ce qu'ils disaient. C'était un élan vers chaque nation, vous voyez. Jésus a dit que l'Évangile devait être prêché au monde entier en commençant par Jérusalem. Cela devait se passer comme cela. Maintenant remarquez, Paul dit que si vous parlez dans une langue, cette langue inconnue qui est le don des langues, autrement que par interprétation ou par révélation, elle ne sera pas d'un grand profit. Et puis nous trouvons qu'au 13e chapitre, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ainsi, vous pourriez parler les langues pures des hommes et des anges, et pourtant ne pas avoir le Saint-Esprit. Dans Hébreux 6, nous est-il pas dit justement que la pluie tombe sur le bon grain et l'ivraie? Jésus n'a-t-il pas dit la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste? Vous voyez? La pluie qui fait pousser le blé est la même que celle qui fait pousser le... Mais par le fruit de celui-ci, vous le reconnaissez. Le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. C'est ce que Paul a dit. Si j'ai tout, si je peux parler dans toutes sortes de langues, et que je n'ai pas l'amour, la compassion, la bonté, la foi, la patience, ainsi de suite, cela ne me sert de rien, vous voyez? Et puis, notez au sujet des dons. Vous dites, oh, voici un grand homme de Dieu. Oh, il accomplit des miracles. Pourtant, cela ne le rend pas parfait. Bien que j'ai le don de faire des miracles, dit Paul, dans la première épître aux Corinthiens, ou quelque chose de cet ordre, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes et que je n'ai pas ce fruit du Saint-Esprit, l'amour, je ne suis rien. Voyez? La foi fera n'importe quoi. C'est pourquoi je dis toujours, vous n'êtes pas guéri par les mérites de votre salut, vous êtes guéri par les mérites de votre foi. Si tu peux croire, or voyez-vous, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, bien qu'il puisse le faire, je ne suis rien. Ainsi, reconnaissez que vous ne pouvez rien dire. Maintenant, venons-en à mon cher ami méthodiste. J'ai eu deux réunions ici même, et j'en ai fait partout ailleurs. L'église méthodiste croyait à l'époque de ses débuts que lorsqu'un homme avait assez de religion et de sanctification pour proclamer sa foi, il avait le Saint-Esprit. Le pentecôtiste disait que lorsqu'il parlait en langue, il avait le Saint-Esprit. Et de nos jours, ils disent que si vous avez un ministère de guérison, vous le possédez. Mais aucune de ces... Écoutez, mes amis, n'essayez pas de rechercher des sensations, ni de dépendre d'elles. Au lieu de cela, reposez-vous sur des réalités et non sur des sensations. Proclamer sa foi, c'est très bien. Parler en langue, c'est très bien. Louer le Seigneur, c'est très bien. Croire au miracle, c'est très bien. Toutes ces choses et tous ces sentiments, certains croyants disent, oh, je l'ai senti comme un vent puissant. Un autre dit, j'ai senti du feu dans mon âme. Et alors, cela ne l'a sanctifié en aucune manière. Ce qui compte, c'est que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu après avoir reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous ne pouvez donc pas le déceler d'après une certaine sensation. Or, en toute sincérité, c'est tout ce que je peux vous dire. Je puis me tromper. Si je me trompe, alors j'ai mal compris l'Écriture. Si c'est contraire à l'Écriture, eh bien, je n'ai pas voulu contredire l'Écriture, mais j'ai simplement donné ma version de ce que je crois être la vérité. Maintenant, nous avons passé beaucoup de temps sur ce sujet avant de commencer notre service régulier. Nous ne parlons pas trop souvent de ces choses au tabernacle. Ceci a été la première fois, je pense, depuis très longtemps, peut-être depuis un an ou deux. Et alors, il se peut que quelques-uns de nos amis soient entrés et qu'ils aient dit, Bon, frère Branham, j'ai eu des lèvres balbutiantes, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela, et que j'ai dit, bon, c'est très bien, c'est très bon. Maintenant, si vous voulez parler dans une langue inconnue, je crois que Dieu vous permettra de le faire. Mais d'après les Écritures, vous n'êtes rien tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. Alors, après la venue du Saint-Esprit, vous pouvez parler les langues et avoir, Dieu vous prendra tel que vous êtes et vous transformera en faisant de vous un serviteur fidèle. Peut-être vous fera-t-il prêcher l'évangile, peut-être vous donnera-t-il le don de parler en langue, peut-être fera-t-il de vous un prophète. Il peut vous donner le don de prophétiser. Il est difficile de vous dire ce qu'il fera pour vous. Mais la première chose dont nous devons être certains, c'est que nous sommes tous baptisés en un seul corps, non par une sensation, mais par un seul esprit. Et alors, les dons de parler en langue et tous les autres viennent dans ce corps. Qu'en est-il si un Nazaréen vient vers moi? Vous pourriez dire, frère Branham, maintenant il y a un Nazaréen chez les méthodistes. Ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand ils ont proclamé leur foi en criant, ils disent avoir reçu alors le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas reçu, mais il y a une chose que j'observe. Ce sont les fruits qu'ils portent. Quand la vérité est révélée, certains d'entre eux se dressent violemment contre le Saint-Esprit. C'est du diable, disent-ils. Et alors les fruits révèlent d'où ils viennent, vous voyez. Ils montrent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ceux qui veulent marcher dans la lumière reçoivent la parole. Il y a quelque temps, je prêchais dans le Kentucky, et à l'extérieur de la réunion, il y avait un homme qui appartenait à une église, croyant que le temps des miracles était révolu. Il avait une lanterne à la main, et il dit, « Je vous attendais, prédicateur. » Je dis, « Oui, monsieur. » Il dit, « Je suis monsieur un tel. » Et je lui serrai la main en disant, « Je suis vraiment très content de vous voir, mon frère. » Et il dit, « Je voulais simplement vous dire que je crois que vous êtes complètement dans l'erreur. » Et je lui répondis, « Vous avez absolument le droit de le faire, puisque vous êtes américain. » Et il dit, « Eh bien, vous voyez, je dis, en quoi voulez-vous dire que je suis dans l'erreur ?»« Dans les guérisons. » J'ajoutais, « Que pensez-vous de la petite fille pieds nus qui est venue là hier soir et qui avait un petit enfant ?» Elle-même n'avait pas plus de 14 ans, elle était pieds nus avec une pauvre petite robe de... comment appelez-vous cela? De guingamp, de calicot, de quelque étoffe, je ne m'y connais pas en tissu. Elle avait un bébé dans les bras, elle vint vers moi, et les gens regardaient par la fenêtre. C'était dans une église méthodiste, un peu en dehors de Burksville, dans le Kentucky où je suis né. Elle portait ce petit bébé dans ses bras, et je lui dis, ma sœur, quelqu'un de votre famille serait-il malade? Elle s'avança à travers la foule, une pauvre petite fille timide en baissant la tête. Puis elle dit, oui monsieur, mon bébé. Et le petit bébé est à peu près grand comme cela. Frère Branham montre à peu près la grandeur, note de l'éditeur. Je dis, qu'est-ce qu'il a, sœur? Elle répondit, il a des convulsions. Et je dis, des convulsions? Oui, monsieur. Depuis combien de temps? Demandai-je. Et elle dit, eh bien, depuis sa naissance, et il a presque un an. Et je lui demandais, voulez-vous me laisser tenir le bébé? Là-haut, dans les montagnes, vous devez faire attention à cela. Elle dit, oui, monsieur. Elle mit le petit bébé dans mes bras. Et dans mon cœur, je me tins immobile pendant une minute, je dis, « Oh Dieu, si tu veux que je gagne la confiance de ces gens, alors fais quelque chose pour moi maintenant. » Et alors que je tenais l'enfant dans mes bras, il s'arrêta de sursauter. Je le regardais, je la fermais dans mes bras, je jouais avec lui, il me souriait, riait. Je la regardais, elle se leva, sa petite tête baissée, ses cheveux séparés par une raie, deux nattes pendant dans son dos. Elle leva la tête et les larmes coulèrent le long de ses petites joues. Et des hommes endurcis étaient là, avec de gros favoris sur les joues, les larmes coulant le long de leurs joues. Regardant tout autour de moi, je dis, voici votre bébé, ma sœur. Jésus-Christ l'a guéri. Et de vieilles femmes commencèrent à s'évanouir, à tomber à terre. Il fallut leur mettre de l'eau sur le visage et les éventer. Alors dis-je, qui a fait cela? Il me dit, monsieur Branham, je ne peux croire que ce que j'ai vu de mes yeux. Je dis, bon, je pense que vous avez raison, mais je vais vous demander où vous habitez. Il répondit, là-bas derrière la montagne. Venez dîner chez moi ce soir, et je vous donnerai du bon lait crémeux et du pain de froment. Et je lui dis, j'aimerais y aller, mais j'ai vraiment très faim, mais je ne peux pas le faire. Je dois rentrer à la maison avec mon oncle. Et je lui dis, bon, je vais vous demander quelque chose. Comment savez-vous que vous allez arriver chez vous? Il dit, eh bien, je franchirai simplement cette montagne. Je dis, pouvez-vous voir votre maison? Non, dit-il. Alors, comment savez-vous que vous allez y arriver, lui dis-je? Il y a un chemin qui y conduit, répondit-il. mais pourtant dit, vous ne pouvez pas le voir. Et vous venez de me dire que vous ne pouviez croire que ce que vous voyez parfaitement. Oh, dit-il, je prendrai une lumière et je marcherai à la lueur de cette lumière. Je dis, c'est exactement ce que j'essayais de vous faire dire. De même que la lanterne donne de la lumière, vous marchez dans la lumière, car il est dans la lumière. Nous y arriverons très, très bien. Je crois que je ne vois pas très bien la fin, mais je sais que nous y arriverons. Maintenant, prions. Père Céleste, nous te remercions pour la bonté de Jésus-Christ, qui est le centre de l'amour. Autrefois, je pensais que tu étais en colère après moi, mais que Jésus m'aimait. Mais maintenant, j'ai découvert que Jésus est le vrai cœur de Dieu. Alors je sais que tu m'aimes et que tu as souffert pour moi. Et mon Dieu et Père, aujourd'hui je prie pour ce monde et pour notre patrie. Je te prie, Seigneur, de pardonner mes propres fautes et les fautes de mes fidèles, des gens dont tu m'as donné la charge. Et je te prie de les bénir, ainsi que chaque personne présente à cette réunion et qui a posé des questions. Peut-être ai-je dit quelque chose de contraire à leur croyance. Seigneur, je ne peux pas me l'expliquer, j'en suis incapable, mais fais-leur simplement savoir, ô Père, ce que je veux dire du fond de mon cœur. Je t'en supplie, fais-le, bénis-les tous. Bénis-nous alors que nous attendons ta parole quelques instants avant la cérémonie du baptême. Aide-nous à dire ce qui est vrai, aide-nous dans le message de ce soir, ma voix étant un peu rauque. Je te demande de m'aider, ô mon Dieu, et de guérir les malades et les affligés qui sont parmi nous. Car nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous le voulez bien, prenons pendant quelques instants l'Épître aux Romains, chapitre 6. Bon, attendez, je crois que j'ai reçu, oui, encore un gros paquet. Bon, j'y répondrai mercredi soir, si tout va bien. Il est si tard maintenant. Je ne vois ces questions qu'à présent. Lisons donc Épître aux Romains, chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et si je devais étudier un texte ce soir pendant environ 20 minutes, je dirais ceci. Identification. Identifier la Christ. Vous savez, il y a aujourd'hui tellement de gens mécontents dans le pays. Et c'est étonnant de voir tant de mécontentement quand vous vous déplacez dans le pays. Les gens savent à peine ce qu'ils veulent faire. Ils parcourent les routes à 70 ou 80 milles à l'heure dans une zone où la vitesse est limitée à 30 milles, prennent les virages au frein et repartent à une telle vitesse qu'ils usent à moitié leurs pneus pour aller dans un pâté de maison tailler une petite bavette. Les gens n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils veulent. Certains d'entre eux sont dérangés au point d'aller à la droguerie, s'acheter une bouteille d'arsenic ou d'acide sulfurique ou quelque chose de ce genre pour se suicider. On les trouve étendus morts. Certains ouvrent le gaz dans leur chambre ou s'enferment dans leur automobile pour essayer de mourir. D'autres iront sur un pont et après avoir écrit une petite lettre qu'ils épingleront sur leur manteau, se précipiteront dans la rivière ou ils se précipiteront du haut des montagnes ou de hautes tours. D'autres prendront un revolver et se feront sauter la cervelle. Ils sont simplement insatisfaits. Les hôpitaux sont pleins de gens mécontents. Les asiles d'aliénés sont surchargés. Ils sont insatisfaits. Ils ne savent pas ce qu'ils se veulent. Ils semblent chercher quelque chose qu'ils ne peuvent jamais atteindre. Et aussi, nous voyons des foyers qui sont la base de la nation et de l'Église. Nous les voyons brisés et les tribunaux sont encombrés de demandes de divorce. Des mères laissant leurs petits-enfants à la garde d'étrangers, s'en vont travailler quelquefois alors que leur mari a une bonne situation. Mais elles ne savent pas se contenter d'être de bonnes mères et de rester dans leur foyer. Elles ne veulent pas être habillées comme des dames. Elles veulent être habillées comme un homme. Les hommes veulent être comme les femmes. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Les gens sont à la recherche de quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils se trouvent vraiment dans une triste condition. Ils cherchent partout quelque chose qui puisse les mettre en évidence. Prenons les femmes modernes. Elles regarderont la télévision jusqu'à ce qu'elles voient une certaine étoile de cinéma qui soit habillée d'une certaine façon et toutes les femmes voudront s'habiller ou se comporter comme elles, suivre son exemple. Quelques jolies filles en pleine jeunesse essayeront de copier une étoile de cinéma et d'agir comme elles. Finalement, elles se trouveront enfermées dans un faisceau de péché dont elles ne pourront plus s'évader. Quel malheur! On les voit venir à des réunions, les joues mouillées de larmes, mais elles sont à la recherche de quelque chose. Prenons l'homme. Considérez-le dans la rue ou à son bureau. L'homme âgé veut être un garçonnet. Il coupera ses cheveux sur le dessus de la tête et se fera une natte dans le dos. Il veut être un garçonnet. Les garçonnets veulent ressembler à l'un des rois du rock'n'roll. Que deviennent-ils? Des pêcheurs et des voyous. Les hommes ont l'air insatisfaits. Ils courent de droite et de gauche. Ils écoutent la radio pour entendre des blagues débitées par des titres. Et ils sortent et essayent d'imiter ces gens-là ou d'agir comme eux. Prenez un petit garçon dans la rue, comme j'en connais, et il veut être un paladin ou un opalon cassidy ou... Et le monde commercial s'empare de ces lubies qui lui rapportent des millions de dollars. Ils veulent être un Roy Rogers ou un Mr. Dillon ou quelques vedettes de la télévision. Ils essayent d'incarner ce personnage. Ils l'ont pris comme exemple. Ils l'ont adopté comme modèle de vie. Et que deviennent-ils à la fin du compte? Ces petits garçons deviennent des voyous et des voleurs. Les femmes deviennent des prostituées traînant dans les rues et des gibiers de potence. Et les hommes deviennent joueurs et amoureux du plaisir plutôt que des adorateurs de Dieu. Les églises essayent d'imiter l'autre église, la grande église. Il semblerait qu'il n'y a aucune satisfaction chez les gens. Qu'est-ce qui les rend mécontents? Il y a une raison, leur nature. Dieu leur a donné cette nature. Leur nature les pousse à avoir quelque chose ou quelqu'un à qui s'identifier. Ils doivent avoir quelque chose à quoi ils veulent ressembler, qui soit le but de leur existence. Ils veulent être une étoile de cinéma ou un cowboy ou quelque chose de ce genre. En rentrant chez moi, j'ai entendu à la radio l'histoire d'un Italien important à Denver qui essayait de jouer les opalons de Cassidy avec un revolver chargé. Et au lieu de cela, il sera infirme jusqu'à la fin de ses jours. Il s'est brisé la rotule. Et voilà. Mais ils essayent de trouver quelque chose à quoi s'identifier. Et ils le font parce que Dieu les a fait comme cela. Mais Dieu leur a donné un exemple auquel s'identifier. Quand il a engendré Jésus-Christ pour qu'il soit notre sauveur. Voilà l'exemple. C'est ce que les gens devraient vouloir, être identifiés à Jésus, être comme lui. Et si tous les petits garçons qui veulent être Opalon Cassidy ou quelqu'un d'autre, ou les petites filles Annie Oakley et ainsi de suite, si seulement ils voulaient être comme Jésus, autant qu'ils veulent être les autres, il y aurait des écoles du dimanche combles partout. Si les femmes qui veulent être comme une étoile de cinéma voulaient ressembler à Jésus, l'Église, celle-ci n'aurait certainement plus besoin de prélever des offrandes. Dieu a voulu que l'homme désire un modèle, et Dieu lui a donné un modèle. Ce modèle est Jésus-Christ. Il doit s'identifier à lui. Alors, si nous voulions lui ressembler le plus possible, il n'y aurait pas tant de tueries dans le monde. Il n'y aurait pas d'enfants affamés dans le monde. Il n'y aurait pas de whisky ou d'ivrognerie ou de jeux. Dieu nous a donné un modèle sur lequel nous devons nous modeler, mais nous refusons de le faire. Voici, c'est pourquoi il en est ainsi dans le monde. Les hommes ont le désir, Dieu le leur a donné, mais ils le réalisent mal. Il est temps de revenir en arrière et de s'engager sur la bonne route, en regardant le calvaire en face. La nature le prouve. Alors, Si les gens d'aujourd'hui, animés d'un tel désir et de cette grande ambition de prendre quelqu'un en exemple, prenaient le Christ comme exemple, alors nous pourrions supprimer toute la police du pays. Tout le monde serait humble et doux, tout le monde serait charitable et aimerait son prochain d'un amour fraternel. Il n'y aurait plus de divorce dans notre pays. Il n'y aurait jamais de maladie. Nous pourrions fermer les hôpitaux si tout le monde essayait de prendre Jésus comme exemple. Nous n'aurions besoin de rien d'autre. Car telle est la nature de l'homme, mais il la tourne du mauvais côté. Et savez-vous que la Bible dit que nous sommes maudits lorsque nous sommes asservis à la chair? Quand vous essayez de faire de la chair votre idéal, ou que vous mettez votre confiance dans la chair, la Bible dit que vous êtes maudits. Je sais très bien que c'est si facile à faire. Ce qui fait beaucoup de mal, ce sont nos kiosques à journaux remplis de magazines vulgaires, nos maisons pleines de photos de pin-up, nos écrans jamais censurés, ouverts largement à n'importe quelle sorte de plaisanterie ou qui montrent des choses terribles. La pureté n'existe plus parmi nous. Je le sais, vous pensez que je suis très dur sur ce sujet, mais il faut que quelqu'un soit dur à ce propos. Il doit en être ainsi. Et quand j'étais un petit garçon, j'ai lu le livre Tarzan et les singes. Maman avait devant le buffet un vieux tapis en fourrure que Madame Watson lui avait donné. Et j'ai découpé cette fourrure et je me suis fait un vêtement de Tarzan avec et j'ai dormi dans un arbre pendant une semaine. Je voulais être Tarzan. Puis, quand j'ai lu The Lone Star Ranger, je chevauchais un manche à balai comme si c'était mon cheval préféré, essayant d'être The Lone Star Ranger. C'est exactement ce que les gens font, selon ce que vous lisez, la musique que vous écoutez. Allez dans un restaurant, il y a encore ce vieux rock'n'roll. Rien d'étonnant à ce que les gens deviennent fous. C'est suffisant pour rendre fou un être humain. Mais, oh, je serai éternellement reconnaissant pour ce jour où j'ai lu quelque chose sur Jésus. Cela m'a satisfait. J'ai voulu être comme lui. Cela est mon désir, être capable de tendre l'autre joue ou de marcher pendant encore un mille, d'être capable de pardonner quand tout est contre vous, de n'avoir aucune rancune contre quiconque, même s'il vous maltraite, parce que vous faites le bien, mais continuez à les aimer. C'est comme cela que je veux être. Je veux être cette sorte de personne. Je veux être capable de ne pas rendre injure pour injure. C'est ce genre d'exemple que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Nous devrions nous identifier à lui. Comment peut-on s'identifier à lui, direz-vous? Vous avez pu vous habiller comme les étoiles d'Hollywood et avoir fait ces autres choses, mais comment arrivez-vous à vous identifier à Jésus-Christ? D'abord, vous vous repentez de ce que vous avez déjà fait. Et puis, vous êtes identifié à lui ici, dans les temps. Il est certain que beaucoup seront identifiés à lui dans quelques minutes. Dans les temps, vous serez identifiés à lui par le baptême. Car si nous sommes ensevelis avec Christ, nous sommes identifiés à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. C'est pour cela que nous sommes baptisés. Nous descendons dans l'eau et nous en sortons pour témoigner que nous croyons à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, Dieu nous a fait la promesse que nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Identifiez-vous à quelques reines de l'écran et voyez où vous allez en arriver. Identifiez-vous à quelques cowboys ou quelques adolescents et voyez où vous en serez. Mais je vous lance un défi ce soir. Identifiez-vous à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection, et voyez où vous serez au jour de la résurrection. Car si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Dieu nous en a fait la promesse. Mon seul désir est d'être comme lui. Prends-moi au Seigneur, façonne-moi et pétris-moi, modèle-moi encore et encore. Et comme le prophète qui est descendu à la maison du potier le vit, brise-moi et refais-moi. Dans l'Ancien Testament, quand un homme voulait entrer dans la maison de Dieu, il prenait la chose la plus innocente qu'il pouvait trouver, un agneau. Et il savait que l'agneau était sans tache, parce qu'il ignorait le péché. Et il allait prendre l'agneau et lui mettait la main sur la tête et confessait ses péchés, et par la foi, il transférait ses péchés sur l'agneau, et l'innocence de l'agneau sur lui. Et alors l'agneau mourait parce qu'il était un pécheur. Et l'homme vivait par un acte de foi en obéissant à ce que Dieu avait dit. Mais que faisait-il? Il sortait du temple avec le même désir qu'il avait en entrant. Parce que quand cette cellule de sang est brisée, la vie découle d'une cellule de sang. Or, quand cette cellule était brisée, la vie de l'agneau n'aurait pas pu coïncider ou pénétrer dans la vie humaine, parce que c'était une vie animale. L'homme donc repartait avec les mêmes passions qu'il avait auparavant, de sorte qu'il recommençait continuellement à commettre le péché. Mais il vint un temps où Dieu nous donna un exemple. Il nous donna le Seigneur Jésus. Et quand un pécheur pose sa main sur sa précieuse tête et confesse ses péchés, il est transformé. Et ses péchés sont transférés du pécheur sur Jésus. Et l'innocence de Jésus est transférée par le Saint-Esprit à cette personne. Elle devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je désirais t'identifier. La Bible dit, lui qui était sans péché, fut fait péché pour nous. C'est à cause de nos péchés qu'il a souffert. Ce n'est rien de plus que ce qui est juste, rien de plus que notre devoir de constater ces choses et de voir que les désirs que nous avons sont mis en nous par Dieu afin de nous faire aspirer à être comme lui. Et maintenant, si vous pouvez le voir par la foi, devant ce réel désir qui vous étreint, avancez-vous. Soyez identifiés à lui par le baptême. Et alors, quand vous serez entrés dans la ressemblance de sa mort, vous participerez aussi à la conformité de sa résurrection. Car quand il est sorti du tombeau, il était le même Jésus que lorsqu'il y est entré. Et si nous sommes en Christ, comment cela se peut-il? Par le baptême du Saint-Esprit, ce jour-là, nous paraîtrons et prendrons part à sa résurrection. Il y avait un petit chœur que j'avais coutume de chanter il y a des années. Pour être comme Jésus, être comme Jésus sur la terre, je désire être comme lui. Pendant tout le voyage terrestre, de la terre à la gloire, je demande seulement d'être comme lui. De la crèche de Bethléem sortit un étranger au monde. Sur la terre, je désire être comme lui. Pendant tout le voyage terrestre, de la terre à la gloire, je demande seulement d'être comme lui. Partagez sa douceur, vous partagerez aussi son pouvoir. Partagez son obéissance et vous partagerez sa résurrection. Faites ce que Dieu dit de faire. La plus grande chose à laquelle je puisse penser dans mon cœur, c'est d'être comme Jésus-Christ, d'être identifié à lui. C'est pourquoi je baptise au nom de Jésus-Christ, car il est notre identification. Saisissons cette identification. Quoi que vous disiez ou fassiez, faites-le au nom de Jésus-Christ, en louant Dieu pour cela. Et nous sommes identifiés à lui par le baptême. Ce soir, dans quelques minutes, nous allons baptiser les personnes présentes dans cette salle qui sont ici pour cela. Et si au fond de votre cœur, vous aviez quelques désirs tendant à des ambitions mondaines, repentez-vous-en immédiatement. Dites à Dieu que vous avez soif d'être comme Jésus. Venez doucement, humblement. Et alors, quand vous aurez mis vos mains sur sa tête et confessé vos péchés en toute foi, dites, Seigneur, j'ai un grand regret de l'avoir fait. Alors qu'arrivera-t-il? Dieu transmettra toutes vos fautes sur lui et prendra son innocence et la mettra sur vous. Et vous serez justifié devant Dieu parce que vous aurez cru en Jésus-Christ son Fils. Quel merveilleux plan de salut! Alors vous participerez à sa gloire. La bonté de Dieu descendra dans votre cœur. La puissance de sa résurrection fera de vous un être nouveau. Il exaucera tous vos soupirs. Quand j'étais un petit garçon, j'essayais de faire tout ce que j'étais assez grand pour faire. Et j'essayais de faire un tas de choses que Ce n'était pas assez grand pour faire. J'aime beaucoup chasser. Je pensais, c'est cela. Je pensais à cela à cause de mon père, qui était un cavalier. Je me disais, si seulement je pouvais aller dans l'ouest et dresser leurs chevaux. Une fois, en revenant d'au-delà des montagnes en Arizona, ramenant un troupeau de bétail une nuit, je m'arrêtais là. Et un garçon nommé Slim avait un vieux peigne avec un morceau de papier dessus, et il jouait. Et un autre garçon venant du Texas était installé là avec une guitare, et ils se mirent à chanter un hymne. J'avais enlevé la selle de mon cheval et, me servant de ma selle comme oreiller, ma couverture sur moi, j'étais étendu là immobile, ayant encore mes bottes et une paire d'éperons me tenant les pieds en l'air, et il commença à chanter. Au pied de la croix où mon sauveur mourut, pour me laver du péché, à ses pieds je pleurais, là le sang fut appliqué à mon cœur, que son nom soit glorifié. J'essayais de remonter la couverture et de me boucher les oreilles. Je levai les yeux et les étoiles me parurent basses, et les pins chuchotant dans les montagnes semblaient crier. Adam, où es-tu? Oh, l'élevage du bétail était devenu une chose bien secondaire. Je voulais trouver Dieu. En partant de là, je butais sur une paire d'éperons et je dis, ô Dieu, je ne sais pas qui tu es, mais ne me punis pas jusqu'à ce que je puisse trouver la vérité. Et deux jours après cela, dans la ville voisine, et après le rassemblement du bétail, j'étais assis sur un banc d'un vieux petit parc, et une petite espagnole vint, et j'étais assis là pensant à Dieu. Qui pouvait-il être? Et la petite fille vint près de moi, qui n'avait environ que 18 ans. Elle laissa tomber son mouchoir et s'en alla. Je dis, madame, vous avez laissé tomber votre mouchoir. Et le fait d'avoir pensé à Dieu avait changé mes idées. Un pauvre cœur irlandais avait faim. Je voulais quelque chose qui me rassasille. Et Dieu m'a donné le privilège de chasser dans le monde entier, en Afrique, aux Indes, dans les montagnes du Canada, dans quelques-unes des plus grandes chasses, et d'établir des records du monde. C'est très bien. Mais il n'y a rien qui puisse remplacer la puissance du Dieu vivant dans votre âme. J'aime les montagnes, j'aime les couchers de soleil. Et quand j'arrivais là, je descendis de cheval, l'attachais, me dirigeais vers le sommet de la montagne, et je restais deux jours à contempler le lever et le coucher du soleil, en écoutant le cri des aigles. C'est merveilleux, j'aime cette vie. Mais, frère, mon cœur commence à cogner, à battre plus vite quand je pense. Impur, impur! Les esprits du démon l'ont déchiré. Tout sera bien quand Jésus viendra demeurer en nous. Oh, je commence à penser aux malades et à cet appel. Il y a quelque chose en moi qui crie. Je vais vite descendre de ces montagnes, aller vers les gens. Je veux m'identifier comme son serviteur parmi son peuple. Oh, combien j'aime à m'identifier à lui. Alors à cause de cela, il revient parmi nous et il s'identifie à nous. Il est ici, ce soir, mes amis. Maintenant, c'est l'heure. Le service de baptême va commencer dans 10 minutes environ. Mais avant de le commencer, je veux dire une seule chose. J'aurai beaucoup de commentaires à faire, mais je n'en ai pas le temps. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est identifié à sa parole. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est identifié dans la réunion de ce matin en donnant le discernement. Il s'identifie en tirant le pécheur de l'abîme du péché pour en faire un homme nouveau, une créature nouvelle. Il prend la femme ou l'homme le plus bas tombé, un ivrogne, un alcoolique ou tout ce que vous voudrez, et il le relève et le régénère pour en faire un homme digne ou une dame. Voilà mon Seigneur. Il prend un homme qui est malade, affligé, qui n'a plus aucun espoir et il le fait renaître à une nouvelle vie. Et puis, il apparaît au milieu de nous et il s'identifie lui-même comme étant le même Jésus qui connaît les pensées les plus secrètes de notre cœur. Il se tient au milieu de son peuple, Dieu se manifestant dans son peuple. Il est ici, maintenant même, ce même Saint-Esprit. Avant que cette réunion de baptême ne débute et pendant que le frère prépare toutes les choses, je me demande s'il y a des personnes ici présentes pour lesquelles on n'a pas prié ce matin et qui sont malades. Levez la main. Allez, levez la main si vous êtes malade ou dans le besoin. Et si l'on n'a pas prié pour vous ce matin, vous n'avez pas de carte de prière, vous n'avez rien, Vous êtes simplement malade et dans la peine. Très bien. Inclinons la tête un moment. Seigneur, avec la gorge serrée et la voix rauque, oh, je t'en prie, daigne semer le bon grain dans les cœurs, pour que nous puissions nous identifier à toi. Car il y a un ancien proverbe, on reconnaît l'oiseau à son plumage, et dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et cher Père Céleste, nous te prions pour que tu deviennes notre compagnon, que nous t'ayons, même si cela doit nous coûter tout ce que nous avons sur cette terre. Fais-nous nous identifier à toi de telle manière que l'on puisse dire, cet homme vit vraiment avec Dieu. Dieu est sa compagnie. Puissions-nous dire comme Pierre et Jean, après qu'ils eurent passé la porte appelée la Belle, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et l'infirme fut guéri. Et alors, devant le tribunal, les gens dirent s'être aperçus qu'ils étaient ignorants et illettrés. Ils n'avaient pas d'éducation, mais ils devaient avoir été en bonne compagnie. Ils avaient été avec Jésus. Et Dieu, du plus profond de mon cœur, je te demande d'être identifié à toi comme l'un de tes serviteurs, comme quelqu'un qui t'aime et veut te rester fidèle en observant les paroles de ton livre et en faisant tout ce qu'il saura être juste. Maintenant, Père, veux-tu t'identifier à nouveau parmi nous ce soir, afin que les gens puissent savoir que ce n'est pas une simple réunion, mais un moment exceptionnel, ou quelque chose de ce genre, Seigneur, et que l'on sache ce soir que tu es le même Dieu qui était ici ce matin. Tu as la même puissance, et les choses que tu as faites ce matin, tu peux les faire encore ce soir. Tu as promis qu'elles se feraient encore dans les derniers jours. Et beaucoup ici n'arrivent pas à ressentir assez de foi. Nous te prions, donne-leur la foi maintenant. Et que ton esprit soit manifesté parmi nous. Car tu as dit, les œuvres que je fais, celui qui croit en moi les fera aussi. C'est pourquoi je t'en prie, mon Dieu, sois avec nous ici ce soir et aime-nous encore. Tu veux que chaque personne ici présente, qui n'a pas été baptisée, vienne et soit identifiée à toi pour qu'elle puisse participer à cette grâce extraordinaire qui peut être transmise de nous à lui et de lui à nous. Nos fautes sur lui et sa grâce sur nous. Accorde-le, Seigneur. Écoute nos prières, car nous te les adressons au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous nous tenons dans l'ombre de la juste justice de Dieu. Il a promis qu'il serait parmi eux chaque fois que deux ou trois sont réunis ensemble au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je ne sais pas. Je pense qu'une partie des cartes de prière ont été ramassées. Certains d'entre vous peuvent encore en avoir. Beaucoup d'entre vous n'en ont pas. Que vous en ayez ou non, cela n'a pas d'importance. Si vous êtes malade, vous êtes malade. Et si ce Dieu qui a écrit la Bible, croyez-vous solennellement en lui? Et s'il revenait parmi nous pour manifester, en plus de la proclamation de la parole, qu'il est ici, prouvant aux pécheurs qu'il est présent, qu'il est ici pour guérir les malades et en révéler la cause, comme il le fit quand il était ici sur terre, accepterez-vous joyeusement votre guérison? Si vous y levez la main. De toute façon, nous n'allons pas, je ne sais pas quelle carte de prière on a donné, et nous ne prendrons pas de carte de prière. Priez simplement et croyez. Et s'il veut descendre parmi nous, et que vous soyez honteux de ne pas vous être identifié à lui jusque-là, vous devriez le faire. À l'église ce matin, nous avons appelé les fidèles à l'autel et prié pour eux. Et le Saint-Esprit m'a secoué si longtemps que j'ai fini par sentir les fidèles me tirer. Il était temps que je m'en aille, car je me sentais si faible. Et maintenant, je dis à vous qui n'avez pas de carte de prière, où que vous soyez assis, je vous dis de croire que l'histoire de Jésus-Christ que je vous ai dite est la vérité. Et si vous êtes malade, priez. Ce matin, j'ai essayé de voir si je pouvais trouver des gens qui n'étaient pas d'ici. Ce soir, cela m'est égal d'où vous êtes. Priez simplement. si seulement le glorieux Saint-Esprit de Dieu, dont nous avons une image, voulait descendre parmi nous. Vous m'avez souvent entendu dire qu'il a promis d'accomplir, quand il reviendra en nous, les mêmes choses qu'il faisait quand il était sur la terre. Maintenant, si vous êtes malade, priez. Tendez-vous vers Dieu. Dites, « Oh mon Dieu, frère Branham ne me connaît pas. Il ne sait rien de moi, mais si tu permets qu'il se tourne vers moi et que tu me laisses toucher ton vêtement et que tu parles, alors je saurai que tu es en communion avec cette Église. » L'Église, ce sont les croyants. Alors je saurai que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et vous priez ainsi. Je me sens conduit à faire cela. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je me suis senti poussé à le faire. Maintenant, levez la tête. Ici, il y a une petite femme qui a levé la main comme ceci en priant il y a quelques minutes. Elle ne prie pas pour elle, mais pour quelqu'un d'autre à côté d'elle. Je ne l'ai jamais vue de ma vie et je ne sais rien d'elle. Elle m'est complètement étrangère, mais elle prie pour sa fille au sujet d'une opération. Vous n'êtes même pas d'ici, vous êtes du Texas. C'est ainsi, dit le Seigneur. Avez-vous une carte de prière? Vous n'en avez pas. Bon, vous n'en avez pas besoin. Croyez de tout votre cœur. Comment ai-je su pour qui vous priez? Ne voyez-vous pas que le Dieu du ciel révèle les secrets du cœur? Daniel ne l'a-t-il pas dit en son temps, Dieu révèle les secrets du cœur? Et il y a une dame assise près de vous, et on était si heureuse, elle avait un trouble au cœur, elle veut que l'on prie pour elle. Posez simplement votre main sur elle, très bien. Maintenant, retournez à Chicago et soyez guéris. Amen. Je ne connais pas cette dame non plus. Je ne sais rien d'elle, mais Dieu vous connaît. Vous voyez, il s'identifie à nous. Si tu peux croire, tout est possible. Et cette petite femme juive assise ici, elle prie également, c'est vrai. Vous priez pour que je vous dise quelque chose. J'ai vu vos ennuis ce matin, mais je n'en ai pas parlé. Mais ce pied qui vous inquiète, il va guérir. Aussi, ne vous faites plus de soucis à ce sujet. Croyez-vous aussi, vous, petite dame assise ici? Croyez-vous que je suis son prophète, son serviteur? Je ne vous connais pas. Dieu vous connaît. Mais si l'Esprit de Dieu est avec nous, alors il fera comme Jésus a fait. Vous priez, je me suis senti attiré vers vous. Il y a l'ange du Seigneur à côté d'elle. Et si vous croyez, votre maladie de cœur et votre arthrite cesseront. Votre nom est Madame Wisdom, c'est vrai. Rentrez chez vous, Madame Wisdom, et soyez guérie. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, mais c'est Dieu, si vous le croyez. Maintenant, regardez. Vous voyez cette petite dame assise là, avec la main sur la bouche comme ceci? Ne voyez-vous pas cette lumière suspendue au-dessus de cette femme là-bas? Maintenant, regardez. Elle descend directement sur elle. Je la vois pointer. Vous avez une maladie de foie qui vous tracasse. Cela vient de la vésicule biliaire. Vous êtes Madame Palmer, c'est cela. Et je me souviens maintenant, vous voyez, c'est simplement une vision. Je vous vois assise à côté de frère Palmer. C'est vrai, sœur. Maintenant, allez et soyez guéris et croyez de tout votre cœur. Il y a aussi une petite dame assise derrière, exactement derrière elle, qui a l'air tout étonnée. Vous pensez que le mal de gorge, ses deux enfants et le vôtre aussi, sœur, partira? Alors rentrez chez vous et réjouissez-vous. Soyez heureux, mettez vos mains sur les deux bébés malades, ils seront guéris, et vous aussi. Vous êtes tous guéris au nom de notre Seigneur Jésus. Vous irez bien, soyez bien. Voyez-vous vivre aujourd'hui le Dieu vivant? Il est toujours aussi grand n'importe où. Ne voulez-vous pas être identifié avec lui? Certainement, vous le pouvez si vous le voulez. Maintenant, courbons la tête un moment avant que je... Cela m'affaiblit tellement. Combien de personnes veulent-elles que l'on prie pour elles? Qu'elles disent, Dieu, pardonne-moi, maintenant je veux croire en notre Seigneur Jésus. Je voudrais que tous mes troubles disparaissent maintenant. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, toi qui as ressuscité Jésus d'entre les morts, Dieu du ciel, je t'implore en leur nom, fais que ce soit l'heure où ils croient. qu'ils s'avancent maintenant, s'ils ne l'ont jamais fait auparavant, et qu'ils soient identifiés à Jésus-Christ ici, dans cet étang ce soir. Car l'Écriture dit que si nous sommes ensevelis avec lui dans le baptême et participons avec lui à sa mort, nous partagerons aussi la résurrection avec lui. C'est une promesse. Et le grand Saint-Pierre d'autrefois a dit que nous devions nous repentir et être baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés et que nous recevrions le don du Saint-Esprit. Ici est assise ma belle-fille, Seigneur, la petite Loïs ayant faim et soif, jeûnant et attendant. Là-bas dans le fond est assise ma sœur ayant faim et soif, jeûnant et attendant. Ô Seigneur, envoie le Saint-Esprit maintenant dans cette salle. Touche leur âme par la puissance de la résurrection. Puissent-ils se lever dans la puissance de leur résurrection et être identifiés à Jésus-Christ dans sa résurrection. Accorde-leur, Seigneur. Pardonne chaque péché. Oublie ce qui est mal, Père, et donne-nous ta grâce, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Guéris tous les malades et les affligés, Seigneur. Tu es ici, tu es Dieu. Tu as démontré toi-même que tu es Dieu. Nous avons reconnu la nature de ton esprit qui accomplissait quelques miracles et puis disparaissait de là pour aller ailleurs dans une autre ville. Mais tu avais laissé derrière toi une preuve que le Dieu vivant s'était manifesté. Je t'en prie, Seigneur Jésus, que le cœur des gens soit tel point impressionné qu'il n'oublie jamais que le Saint-Esprit est présent pour guérir, pour sauver et pour nous remplir de sa bonté. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, combien y a-t-il ici qui doivent être baptisés? Que ceux qui sont prêts veuillent lever la main. Êtes-vous prêts? Préparez-vous pour entrer dans les eaux du baptême dans quelques instants. Et maintenant, tandis que nous attendons au Saint-Esprit pendant quelques moments, combien de personnes ici n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit et priant ardemment désirent le recevoir? C'est Teddy, si vous voulez bien, ou quelqu'un d'autre, venez au piano tout de suite. Nous allons chanter quelques hymnes maintenant, pendant que les femmes vont se préparer pour le baptême dans cette pièce-ci et que les hommes vont dans cette pièce-là, tandis que nous faisons les préparatifs en vue de la cérémonie. Et puis nous allons invoquer le Saint-Esprit pour qu'il vienne sur nous et nous dise les choses qu'il veut que nous fassions. Puis nous éteindrons les lumières dans le grand auditorium, le pasteur sera dans l'eau dehors, et puis nous procéderons à la cérémonie du baptême. Attendez un instant, frère Evans, avant d'éteindre la lumière, car je veux lire un passage de l'Écriture juste un moment, pendant que nous attendons, si vous le voulez bien. Pendant qu'il commence à se préparer, j'aimerais lire un passage de l'Écriture. Combien croit-il que Dieu est infini? Certainement, il est ici maintenant. La seule chose que nous ayons à faire pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'élever notre âme et de l'accepter. Parce que sa puissance prouve qu'il est ici. Comment pourrions-nous en avoir l'ombre d'un doute? Notre âme est baignée de sa sainte présence bénie. Je sens que je pourrais hurler de toutes mes forces que sa bonté et son pardon durent jusqu'à la fin des siècles. Il est ici. Mon cœur est enflammé et plein de joie et d'un bonheur extrême à cause de sa présence. Avant que l'on éteigne les lumières, je vais lire un passage au 3e chapitre des Actes des Apôtres. Et je pense que chaque homme, pasteur ou laïc, évangéliste ou autre ici présent, croit que Dieu est infini. Dieu ne peut pas faire une chose d'une façon et puis changer et la faire d'une autre manière. Il doit toujours faire de la même façon, n'est-ce pas? Voici la proclamation venue de Dieu. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Et quelle sorte de signe a-t-il fait pour prouver qu'il était le Messie? En connaissant les pensées de leur cœur. Est-ce vrai? Pierre a dit, Dieu a prouvé par des signes et des miracles qu'il était avec lui. Cet homme, livré selon le destin, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Oh, cela me transporte. Nous sommes encore ses témoins. Il est ressuscité d'entre les morts, et il vit ce soir. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Maintenant, quelle langue parlait-il pour que toutes les langues du monde le comprennent? Le cœur transpercé par ce discours, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ?» Quelque temps auparavant, ils étaient dressés contre eux, mais après ce puissant discours adressé à chaque nation présente, « Frères, que ferons-nous ?» Alors vient le commandement. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est exactement le même évangile que nous prêchons aujourd'hui. Sauvez-vous de cette génération. Beaucoup de signes et de miracles ont été faits. La présence de Jésus-Christ se montre en vivant, et le même baptême qui était donné alors est donné ici ce soir. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ô Dieu très bon, les salles sont remplies de personnes qui vont être identifiées à toi par le baptême. Je t'en prie, Seigneur, en leur nom, sois assez bon, Seigneur, pour qu'au moment où ils sortiront de l'eau, quelque chose leur arrive, afin que leur âme soit remplie du Saint-Esprit. Puissent-ils, en sortant de l'eau, s'avancer et te manifester en prêchant l'Évangile, en enseignant dans les écoles du dimanche, en parlant langue, en les interprétant, en accomplissant des signes et des miracles, et par-dessus tout, que l'amour de Dieu brûle dans leur âme avec douceur, gentillesse, patience et humilité. Seigneur, je te les confie, ce sont les trophées de ce réveil. Je t'en prie, garde-les sous ta sauvegarde. Et un jour, alors que je serai ici, priant sur ta Bible, après l'avoir prêchée et déclarée de tout mon cœur, que je pense que c'est la vérité, telle que tu me l'as révélée, et Seigneur, nous les baptisons comme nous le sommes tous ici, attendant la résurrection. Et un jour, Seigneur, alors que nous serons tous rassemblés dans les lieux célestes, un bruit viendra du ciel, la trompette retentira, et ceux qui sont morts en Christ se lèveront les premiers. Puissions-nous être enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur et être toujours avec lui. Accorde-le-nous, Père. Conserve-nous en bonne santé, heureux, et rempli de zèle. Nous ne demandons pas d'argent, nous ne demandons pas la facilité, nous demandons simplement d'être comme Jésus. Nous voulons être identifiés à lui, avec le même esprit qui était en lui, doux et gentil, et s'occupant toujours des affaires de son père. Seigneur, à la dernière heure de ce réveil et de l'identification de beaucoup de ces chères personnes, continue à te manifester en leur donnant le Saint-Esprit. Père, accorde-leur. Bénis ce petit tabernacle. Bénis chaque pasteur, chaque personne ayant assisté au service et chaque église venue ici. Seigneur, je t'en prie, daigne envoyer un réveil dans chaque église du monde entier et qu'elles se réunissent toutes ensemble d'un seul cœur pour que la grâce de l'enlèvement par Jésus-Christ soit donnée parmi nous. Nous te le demandons au nom de Jésus.